Le journal est présenté par Thomas Larabi.
Bonsoir à tous. Vive tension en Syrie entre la Turquie et le régime de Bachar al-Assad. Un bombardement syrien a fait 5 morts aujourd'hui dans l'armée turque. L'attaque de trop pour Istanbul qui annonce avoir neutralisé dans la foulée une centaine de soldats pro-al-Assad. Explication depuis la Turquie d'Anand Lauer. 15 ans après la loi Chirac, 450 personnes sont convoquées à l'Elysée demain pour une conférence nationale sur le handicap. Une conférence à laquelle assistera notre invité Alain Rochon, président de l'Association des paralysés de France. Il attend des annonces fortes. Et puis à la fin de ce journal, retour sur les Oscars qui ont couronné la nuit dernière et pour la première fois un film non anglophone, Parasite, du sud-coréen Bong Joon-ho, qui repart donc avec la statuette du meilleur film. Reportage à Séoul où cette victoire fait la fierté de la population. Vous êtes bien sur France Culture, il est 22h. La tension continue de monter entre la Turquie et le régime syrien de Bachar al-Assad. Une nouvelle offensive de l'armée de Damas et de son allié russe dans le nord-ouest de la Syrie provoque des affrontements avec les militaires turcs présents dans la zone. Ce soir, la Turquie affirme avoir, je cite, neutralisé plus de 100 soldats du régime al-Assad. La réplique à un bombardement syrien qui a fait 5 morts dans les rangs de l'armée turque un peu plus tôt dans la journée. C'était l'attaque de trop pour Istanbul. Explication depuis la Turquie d'Anand Lauer.
L'attaque a eu lieu près de la base aérienne de Taftanas, dans l'une des zones où l'armée turque avait récemment renforcé sa présence pour tenter de contrer l'offensive du régime syrien sur Idleb. Depuis début février, plus de 1200 véhicules militaires, transportant notamment des chars et des soldats, ont traversé la frontière turco-syrienne pour entrer à Idleb. Leur mission, fortifier les 12 postes d'observation turcs dans cette province et établir de nouvelles lignes de défense. Ce déploiement de forces inédit puisqu'il surpasserait les moyens mis en œuvre par l'armée turque lors de ses 3 précédentes offensives en territoire syrien, intervient alors que le président Recep Tayyip Erdogan a lancé la semaine dernière un ultimatum à Bachar el-Assad. Retirer ses troupes des abords des postes militaires turc à Idleb d'ici fin février ou affronter une opération de l'armée turque. Tayyip Erdogan menace ainsi d'intervenir militairement pour créer de fait une zone de sécurité à Idleb. Mais la mise en pratique de cette menace pose de nombreuses questions. Comment, par exemple, la Turquie compte-t-elle empêcher le régime de poursuivre ses bombardements aériens et protéger ses propres soldats alors que l'espace aérien dans cette zone est contrôlé par la Russie? Que le régime syrien et son allié russe aient voulu tester les limites d'Ankara ou qu'ils cherchent à provoquer un affrontement, ce nouvel incident signale que le risque d'un conflit entre les armées turques et syriennes à Idleb est de plus en plus probable. À moins qu'un compromis avec Moscou ne fasse baisser la tension. La mort des soldats turcs a d'ailleurs été annoncée alors qu'une délégation russe était à Ankara pour discuter du sort d'Idleb. La rencontre s'est achevée sans résultat.
Et cette offensive syrienne a déjà fait plus de 700 000 déplacés dans le nord du pays. Atmosphère de fin de règne en Allemagne pour Angela Merkel. Sa dauphine désignée la ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, renonce à lui succéder. Elle ne briguera pas la chancellerie aux prochaines législative de septembre 2021. Elle prévoit également d'abandonner la présidence de son parti, le CDU. Les conséquences du fiasco électoral de la semaine dernière dans la région de Thuringe. Contre son accord, son parti avait noué une alliance surprise avec l'extrême droite pour faire élire un président de région. Alors en Allemagne, la question est désormais la suivante. Qui pour succéder à Angela Merkel, chancelière depuis 15 ans maintenant? On cite déjà 3 prétendants et un virage possible à droite. Depuis Berlin, Ludovic Pietoni.
Le favori, c'est Friedrich Merz. C'est contre lui qu'Annegret Kramp-Karrenbauer avait remporté de justesse la présidence de la CDU il y a 14 mois seulement. Une victoire de Merz symboliserait un retour aux racines plus conservatrices de la CDU. Merz est un avocat de 64 ans qui ne porte pas Angela Merkel dans son cœur. Hasard du calendrier, il a quitté la semaine dernière son poste de gestionnaire d'actifs chez le géant BlackRock. On peut citer aussi Jens Spahn, un autre adversaire d'AKK. Il avait terminé 3e lors de la course à la présidence. C'est le plus jeune, 39 ans, il est ministre de la Santé. S'il était lui aussi, en décembre 2018, très critique des années Merkel, il a depuis un an adouci ses positions. Plus central encore, Armin Laschet, 58 ans, il dirige le Grand Land de Rhénanie du Nord-Westphalie et il contrôle la plus grosse fédération de la CDU en Allemagne. Il a toujours été loyal envers la chancelière Merkel.
Une correspondance à Berlin de Ludovic Pietoni. 15 ans après la loi Chirac, 450 personnes sont convoquées à l'Elysée demain pour une conférence nationale sur le handicap. Plusieurs mesures devraient être annoncées en termes d'accessibilité, de logement, d'accès à l'emploi ou encore de simplification administrative. L'occasion pour Emmanuel Macron de dresser le bilan et les perspectives à mi-mandat sur un sujet qui était au cœur de sa campagne présidentielle, Laura Dulieu.
Le président en avait fait l'une des priorités du quinquennat en 2017. 2 ans et demi plus tard, Emmanuel Macron peine à convaincre sur le handicap. Cette conférence doit lui permettre d'abord de défendre son bilan. Plus de 60 000 enfants suivis à l'école, une augmentation de l'allocation aux adultes handicapés ou encore l'octroi à vie de cette aide dans certains cas. Mais c'est surtout des objectifs que va fixer le président avec plusieurs annonces, dont la création d'un numéro unique, le 360. Il doit permettre aux familles d'être mieux accompagnées pour trouver la meilleure prise en charge possible. L'exécutif veut également raccourcir les listes d'attente et les délais de traitement des dossiers, et ce au niveau départemental, car les situations varient beaucoup d'un territoire à l'autre. Le gouvernement entend aussi créer 1000 places en hébergement et 2500 solutions en établissements spécialisés. Au total, en comptant celles déjà prévues d'ici 2 ans, ça donne 6000 places supplémentaires, avec une garantie de traitement des demandes de 3 mois maximum dès 2021. L'objectif est d'endiguer les départs en Belgique des personnes qui ne trouvent aucune solution en France. Ces départs concernent environ 500 adultes chaque année. L'accent sera aussi mis sur l'emploi avec un compte formation majoré ou encore un objectif de 10 000 apprentis en situation de handicap d'ici 2 ans. L'école inclusive, le numérique ou encore l'assistance sexuelle seront aussi évoquées. Et autre volonté affichée par l'exécutif avec ces annonces, sortir de l'isolement les personnes en situation de handicap qui ne trouvent pas de solution et sortent donc du système d'accompagnement. Au cabinet de Sophie Cluzel, on estime leur nombre à plusieurs centaines.
Les explications de Laura Dulieu. Pour en parler avec nous ce soir, notre invité Alain Ronchon, président de l'Association des Paralysés de France. Bonsoir Alain Ronchon.
Oui, bonsoir.
Donc on le disait, demain, grande conférence nationale sur le handicap. 15 ans après la loi Chirac, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 15 ans après, quel est le bilan de cette loi ?
Eh bien, on n'est pas suffisamment avancé. Moi, je suis en fauteuil roulant. C'est compliqué pour se déplacer à Paris, à la métro. C'est compliqué pour se loger, pour trouver un médecin ou un commerçant accessible. Et on a le sentiment que 15 ans après la loi Chirac, les choses n'avancent pas suffisamment vite, même si le regard de la société a changé.
Qu'est-ce qui manque en fait aujourd'hui ? Si il y a déjà beaucoup de textes finalement dans cette loi de 2005, qu'est-ce qui manque ? C'est vraiment des mesures ou est-ce que c'est de l'argent ? Est-ce que c'est des moyens humains ?
Oui, vous avez parfaitement raison. C'est à la fois de l'argent et puis la volonté de traduire maintenant en actes les lois, les textes réglementaires, les positions politiques. Je vous prends 3 exemples. Le premier, c'est l'accessibilité. Alors évidemment, pour APF France Handicap, c'est juste essentiel pour nos fauteuils roulants. Mais on est près de 50 ans après la première loi de 75. On va accueillir les Jeux Olympiques de 2024 dans 4 ans. Et donc aujourd'hui, il est urgentissime de se mettre, je dirais, au niveau des standards européens. Il faut à la fois mettre quelques sanctions, parce que vous avez parfois des acteurs qui refusent de se mettre en accessibilité. Et puis, bien évidemment, encourager les bons élèves, comme toujours, avec des labels, avec des prêts, avec des financements. Le deuxième point, et là je rends hommage au gouvernement et au président, c'est sur la compensation du handicap, c'est-à-dire les gens qui viennent vous aider le matin pour faire la toilette et petit déjeuner, ou les aides techniques comme un fauteuil roulant. C'est la première fois qu'une conférence nationale du handicap va traiter de ce sujet. Le président nous a laissé entendre qu'il y aurait des avancées, notamment pour la parentalité, les aides ménagères. Ce sont des combats que nous menons depuis des années, des attentes fortes. Mais là, comme vous le disiez, est-ce que les financements vont suivre ? Pour l'instant, ce sont les départements qui financent 72% de la prestation de compensation. Et on peut comprendre que leurs finances, étant ce qu'elles sont, ils en aient plus qu'assez. Et puis le dernier point est tout à fait traditionnel, hein, c'est les moyens pour vivre, les ressources. Il y a une personne handicapée sur 3 dans l'emploi alors qu'il y a 2 valides sur 3, ce qui n'est déjà pas énorme. Et donc bien souvent, les personnes en situation de handicap, je dirais, sont condamnées à des indemnités, à des allocations. Même, et ça je salue l'effort budgétaire depuis 2 ans et demi de la revalorisation de l'AAH, 900 euros contre 810 en début de quinquennat, c'est déjà bien, c'est 10%. Mais comme vous le voyez, nous restons durablement dessous du seuil de pauvreté.
Justement, vous parliez de l'accès à l'emploi, je pense à une mesure qui est déjà en place avec les entreprises qui doivent avoir 6% de salariés en situation de handicap avec des pénalités s'ils n'en ont pas. Dans le privé, on arrive péniblement à 3,5%. Oui. Comment est-ce qu'on peut régler ça ? Puisque là, en l'occurrence, les mesures existent, elles sont coercitives et malgré tout, on n'atteint pas les objectifs.
Je crois qu'il faut, attaquer le problème par les racines. Aujourd'hui, 75% des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, n'ont pas le niveau du bac. Donc il faut faire un effort au niveau de l'éducation, au niveau des universités, au niveau de la formation. Ensuite, il faut lutter contre les stéréotypes. Je pense que les chefs d'entreprise qui ont fait l'effort d'embaucher une personne handicapée, en général, en sont contents. Mais nous avons encore, vous savez, un petit peu comme les gens des quartiers, une prévention. Est-ce qu'il sera aussi efficace? Mais vous savez, c'est tellement plus économique de mettre quelques moyens pour remettre quelqu'un à l'emploi qui va payer des impôts, des cotisations, que lui payer des allocations de chômage. Mais il faut une volonté. Pour l'instant, encore un peu dans l'incantation.
Le débat sur l'assistance sexuelle a été rouvert par la secrétaire d'État. Quelle est la position de votre association là-dessus?
Nous pensons que là où la Suisse, la Belgique ou la Californie ont mis en place des systèmes d'assistance sexuelle, qu'il ne faut évidemment pas confondre avec de la prostitution, les choses marchent bien. Là, on parle quand même de couples ou de personnes individuelles qui, du fait de leur handicap, n'ont pas accès à leur corps et donc qui n'ont pas accès à un droit fondamental, qui est un droit à la vie affective et sexuelle comme tout un chacun. Aujourd'hui, nous nous heurtons à un environnement intellectuel, philosophique, mais je crois que les choses évoluent. La secrétaire d'État, effectivement, à la fois saisit le comité national d'éthique, mais est prête à soutenir une proposition de loi parlementaire qui irait dans le sens de la dépénalisation. Parce que lorsqu'un de mes directeurs d'établissement laisse la porte ouverte à 22h, il est dans l'illégalité. Il pourrait être poursuivi pour proxénétisme. Donc il faut qu'on sorte de ces non-dits, de ce climat à l'époque où le mariage pour tous, la PMA avance. Je veux dire, c'est un des derniers secteurs où on est en retard par rapport aux pays développés.
Merci beaucoup Alain Rochon. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des Paralysés de France. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un puissant sédatif bientôt disponible pour les soins palliatifs à domicile. Le midazolam, jusqu'ici réservé à l'hôpital, sera vendu d'ici 4 mois dans les pharmacies de ville. C'est une décision du ministère de la Santé. Le midazolam sera disponible notamment pour les médecins qui prennent en charge des patients qui souhaitent une fin de vie à leur domicile plutôt qu'à l'hôpital. Le rail ne lâche pas la réforme des retraites. FO Cheminot appelle à son tour à une journée morte dans les transports le 17 février. Il rejoint l'appel lancé par 4 syndicats de la RATP pour cette journée où l'Assemblée nationale commence à examiner le projet de loi. Et on termine ce journal avec le film qui a illuminé la 92e cérémonie des Oscars à Hollywood la nuit dernière. Le film coréen Parasite du réalisateur Bong Joon-ho, qui est déjà reparti de Cannes avec la Palme d'Or. Eh bien, la tragicomédie repart d'Hollywood avec 4 statuettes, dont celle du meilleur réalisateur et surtout celle du meilleur film. C'est d'ailleurs la première fois qu'un film non anglophone reçoit ce trophée. Et pourtant, il y avait des grosses machines américaines en face. The Irishman de Martin Scorsese ou encore Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Et ce succès éclatant provoque, vous allez l'entendre, un grand sentiment de fierté en Corée du Sud. À Séoul, un reportage de Luis Aligiano.
And the Oscar goes to Parasite.
Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur film international et meilleur scénario original. Le palmarès 2020 des Oscars est passé sous le rouleau compresseur de Parasite du sud-coréen Bong Joon-ho. Une reconnaissance suprême pour cette comédie au vitriol qui dépeint les profonds écarts entre classes sociales. Kim Sung-tae, professeur de scénario et critique cinéma, se dit naturellement surpris, même si pour lui, Parasite tombait à pic.
Les gens sont de plus en plus préoccupés par ce gouffre qui existe entre riches et pauvres. C'est un phénomène que connaît la totalité du monde capitaliste actuel. Avec ce film, au style unique, ils ont pu voir cette histoire racontée d'une manière qu'ils n'avaient jamais vue jusqu'à présent.
Pour Kim Kyung-nam, directeur des relations internationales au Conseil du film coréen, le triomphe de Parasite aux Oscars marque le début d'une nouvelle ère.
Nous pensons que c'est historique, non seulement pour le cinéma coréen, mais aussi pour l'histoire du cinéma mondial. J'espère que cela permettra aux gens de savoir qu'il y a d'autres bons films sud-coréens à regarder.
Déjà célébré par de nombreux cinéphiles à travers le monde, le cinéma sud-coréen, grâce aux 4 statuettes remportées par Parasite, devrait sans aucun doute se voir ouvrir de nouvelles portes.
C'est où un reportage de Luis Aligiano. Un mot de la météo pour finir ce soir. Les Alpes-Maritimes, la Corse du Sud et la Haute-Corse sont en alerte orange au vent violent avec des rafales allant jusqu'à 130 km/h. Demain matin, après la pluie, ce sera le beau temps pour le sud du pays avec du soleil des Pyrénées-Atlantiques aux Alpes-Maritimes. Partout ailleurs, des nuages et de la pluie. Il y aura même quelques orages en Normandie. Les températures iront de 7 à Strasbourg jusqu'à 17 à Perpignan. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec l'aide d'Annie Brault, à la technique Audrey Guilil.